Nous sommes avec Olivier Carr au festival BD Boom. Bonjour.
Bonjour.
Alors un petit mot sur l'ambiance du festival. Vous venez de finir en plus l'un de vos spectacles. Vous reproduirez la même chose cet après-midi à 15h. Pour vous, BD Boom, en plus c'est les 30 ans, ça représente quoi ?
Bah, BD Boom, c'est une vieille histoire d'amour. Moi, ça fait très longtemps que je viens. Je suis venu au tout début, quand il était encore dans le château, dans la cour du château, etc. C'était quasiment un autre salon, on va dire. Et je l'ai vu évoluer. Et donc, je reviens pas tous les ans, mais je reviens régulièrement revoir ce salon qui est vachement sympa parce qu'il est très dynamique. Il a la taille que j'aime dans les salons. Pas trop gros comme Angoulême où c'est vraiment une vraie foire, et pas trop petit où là où on se retrouve à trois dessinateurs pendant tout un week-end à se regarder dans les yeux. Donc là c'est parfait, c'est très festif.
Un mot sur votre spectacle, Les Petites Histoires Détraquées.
Alors ce sont des textes dont je suis l'auteur qui sont, on va dire, des petites nouvelles absurdes qui partent un peu dans tous les sens, qui ont toujours cette petite mécanique du quotidien qui fout le camp, qui quitte les rails. Donc j'aime bien mettre en place des situations ordinaires et puis donner un grand coup de pied là-dedans pour tout faire valdinguer, en donnant du sens quand même à la direction que prennent les histoires. Et je propose ces spectacles aussi bien pour les enfants que pour les adultes. C'est plein de petits tableaux, en fait, assez colorés. Je m'accompagne à l'accordéon, donc c'est assez vivant. Puis je joue dans les théâtres, dans des médiathèques, un peu partout.
Un exemple d'une histoire ?
Un exemple d'une histoire, l'histoire de cette famille, la famille Legron, qui part en vacances comme tous les ans dans leur petite voiture, leur vieille petite voiture, et qui, comme tous les ans, au bout de quelques kilomètres, s'engueule, se hurle dessus, et un jour, cette petite voiture en a marre. Donc, elle s'arrête, elle fait demi-tour, elle se barre au hasard sur les routes, et les Legron ne maîtrisent plus rien, c'est la voiture qui décide de changer d'itinéraire, jusqu'à atteindre un petit garage de campagne pépère, où là, elle s'éteint définitivement, heureuse de terminer sa longue vie auprès des insupportables Legron. Elle va terminer sa vie comme une bonne vieille carcasse, tranquille, dans le silence. Les Legron vont racheter une nouvelle voiture, ils vont repartir en vacances, et ils vont à nouveau s'engueuler. Voilà, l'histoire continue.
Effectivement, complètement détraqué, mais pourtant tellement réel.
Moi, j'y vois du sens. Alors après, chacun selon la manière dont ils partent en vacances, ils vont s'y retrouver ou pas. Il y a des histoires plus philosophiques, comme cette femme qui se réveille un matin avec des fleurs sur la tête à la place de ses cheveux, et qui va subir les affres de tous ses voisins, qui vont pas vraiment supporter ce changement de physique, et qui vont même aller jusqu'à l'agression. Et elle va s'en sortir grâce à une nouvelle métamorphose, puisque après les fleurs sur sa tête, ce seront des plumes qui vont pousser, et elle sera encore plus belle, et ses voisins déstabilisés vont être dépassés par ce changement physique de plus en plus merveilleux.
Sinon, vous êtes aussi connu pour faire des bandes dessinées ? Notamment, et alors là on est sur un sujet un peu plus grave, l'adaptation du magasin des suicides. Comment ça s'est passé, ce projet-là ?
Ouais, alors un sujet un peu plus grave, pas vraiment en fait. Moi, c'est vraiment un texte, donc c'est un roman de Jean Tellet, qui est complètement dans mon univers. Moi, je m'y retrouve parfaitement. Ce sont des pantoufles que j'ai enfilées en m'emparant de ce texte. Comment ça s'est passé ? Ben, en fait, c'est la dessinatrice Domiti Collardet qui a monté ce projet, qui a eu cette envie et qui m'a appelé simplement parce qu'elle n'avait jamais travaillé le scénario et elle savait pas trop par quel bout prendre ce chantier. Moi j'avais un peu plus l'habitude, donc du coup j'ai travaillé pour elle, mais c'est vraiment une demande de sa part. C'est pas une démarche de la mienne. En tout cas, je me suis senti tellement bien dans cette histoire que je l'ai fait avec un grand grand bonheur. Vraiment. Jean Tellet, il est quand même juste génial quoi.
Et le fait justement de partir d'un roman pour arriver à une bande dessinée, alors c'est des choses qui se font, peut-être un petit peu plus maintenant, ça change quoi au niveau du travail ?
C'est la même chose que pour le cinéma, c'est-à-dire qu'on part d'un texte qui est quand même très analytique, c'est la littérature, donc on est dans de la suggestion, d'émotion, etc. Et on va traduire ça en images. Alors tout le travail, il consiste à comprendre le texte, déjà. Sans faire soi-même un film, puisqu'on travaille vraiment dans l'image, et travailler le découpage, parce que la bande dessinée, elle est intéressante par son tempo. Alors que la littérature peut prendre son temps, la littérature peut faire des digressions assez importantes, peut creuser en profondeur des sous-histoires. La bande dessinée va peut-être plus rapidement au cœur de l'histoire et en tout cas doit garder ce rythme comme ça, très soutenu. C'est le format qui exige ça, ce sont les codes de la bande dessinée qui exigent ça. Enfin, encore que quand on part dans les romans graphiques, on peut se permettre de partir un peu plus vers la littérature. Mais là, en l'occurrence, on est parti vers un format plus traditionnel, on va dire. Bah, il a fallu simplement que je me fasse un film tout en lisant l'histoire. Le fait est que Le Magasin des Suicides est un texte qui lui-même est déjà très imagé, très structuré, et finalement extrêmement facile à adapter en bande dessinée.
Arrivé à 56 pages, alors qu'on part d'un roman qui fait quand même un volume intéressant, les coupes que vous faites, comment vous vous axez à ce niveau-là? Est-ce que c'est des... Enfin, comment vous arrivez, du coup, à réduire, à garder l'essentiel, on va dire, du roman?
Ben, en choisissant de manière totalement arbitraire ce qui me semble être l'essentiel, tout simplement. J'ai dû me séparer de deux passages relativement importants en termes de matière, mais par contre, qui n'étaient pas indispensables, à mon sens, hein. De toute façon, tout est très subjectif. À mon sens, c'était des passages qui pouvait être mis de côté sans nuire au propos de l'histoire, à son sens et à toute l'émotion que Tellet a voulu y mettre.
Sur le choix du découpage, justement, vous n'êtes pas sur quelque chose de classique. Je veux dire, on n'est pas sur des cases avec des bulles, etc. Ça part des fois dans tous les sens. À chaque centimètre carré, il se passe quelque chose. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ça et à avoir une telle liberté?
Alors la liberté, on l'a eue déjà parce que Tellet nous a donné carte blanche. Bon, ça déjà c'est très confortable de bosser dans ces conditions. Ensuite, ce sont des longues discussions avec Domitille Collardet, la dessinatrice. Ce sont vraiment des envies communes. On s'est dit d'emblée, bon, cette histoire se passe dans un lieu unique. Hein, on est dans ce magasin. Voilà, c'est très théâtral. Ce lieu unique, on avait envie de l'exploiter au maximum. Donc on est parti déjà au départ, avant d'avoir commencé le découpage, on est parti sur l'envie d'avoir un grand album dans le format pour pouvoir avoir des tableaux entiers représentant le magasin en coupe. Voilà, on voulait qu'on ait le sentiment en ouvrant l'album qu'on entre dans le magasin. C'était ça le souhait au départ. C'est pour ça qu'on retrouve plusieurs doubles pages où on est vraiment dans une espèce de, à la fois de lieu unique, puisque on donne un coup de hache dans l'immeuble et puis on voit tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors que chronologiquement, l'histoire continue à avancer. C'est-à-dire qu'on a les mêmes personnages 5-6 fois dans le même dessin. L'histoire avance, le lieu est unique. Mais ça, c'est l'histoire même qui le permettait. Parce que c'est quasiment un huis clos, quoi. Tout se passe dans ce magasin.
Pour la mise en scène, est-ce que vous avez donné des indications justement où devait se passer l'action, les personnages, etc. Est-ce que vous avez fait un storyboard?
Alors storyboard non, parce que moi je pars du principe que chacun son boulot. Je veux pas imposer aux dessinateurs, quand je bosse avec un dessinateur, une dessinatrice, je veux surtout pas imposer ma vision des choses. Moi je suis vraiment au service de l'histoire, donc je vais lui donner des indications de cadrage par exemple quand c'est vraiment indispensable, quand ça sert vraiment l'histoire. Si j'ai besoin d'un gros plan sur une main qui prend un combiné du téléphone parce que ça a du sens à ce moment-là, je vais le préciser. Sinon, je lui donne simplement des indications d'action, de mise en place, d'expression des personnages. J'écris beaucoup sur l'émotion des personnages. Ce qu'on retrouve dans le dessin, mais pas à l'écrit, je vais régulièrement dire dans quel état d'esprit se trouve le personnage à ce moment-là. Et ça va peut-être influer sur le dessin. Tout ce qui est vraiment de l'ordre de la... comment je pourrais dire, du visuel pur, je laisse ça à celui qui le maîtrise le mieux, bien mieux que moi.
Donc le fait d'avoir le petit garçon qui court, qui saute, on a l'impression qu'il vole presque en permanence, c'est plutôt vous ou plutôt la dessinatrice?
Ben, c'est un peu moi dans le sens où ce sont toutes les émotions que j'ai voulu mettre dans ce petit enfant. Moi je suis principalement auteur pour la jeunesse, donc j'ai une grande habitude de jouer avec l'émotion de l'enfance. Donc du coup j'ai essayé d'en mettre le plus possible dans ce petit garçon, de la fraîcheur de l'enfance, de la légèreté. Et on s'est vraiment trouvé avec Domitille là-dessus, donc elle a complètement compris mes intentions et elle a été dans ce sens-là. De toute façon, une bonne collaboration entre un dessinateur, une dessinatrice et son scénariste, c'est quand on est sur un terrain d'émotion commun, parce que sinon il va y avoir deux sons différents, ça va être dissonant. Voilà, nous on s'est vraiment bien trouvé avec Domitille.
Sur le côté couleur, ça s'est fait comment? Là aussi, collaboration?
Alors là, c'est vraiment Domitille. Là, c'est pas moi du tout. J'aurais été bien incapable d'apporter cette dimension-là. D'abord parce que je dessine pas. On est vraiment là dans une troisième narration. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, je voudrais tirer un coup de chapeau. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, lever mon chapeau à tous les coloristes, parce qu'on en parle très très peu des coloristes, mais ils apportent énormément de choses. Ils apportent cette troisième dimension comme un compositeur au cinéma, avec sa musique, va raconter quelque chose d'autre, soulever des émotions. Le travail des coloristes est aujourd'hui pas très bien considéré. On en parle très peu. Il n'y a pas de prix pour les coloristes. Ils sont jamais cités, alors qu'ils font un travail indispensable, qui est vraiment un travail très très précis. C'est-à-dire qu'il y a des très bons dessinateurs qui sont des coloristes médiocres, qui n'apportent rien, alors que quelquefois un bon choix de couleurs, une ambiance, une atmosphère, ça sublime complètement une histoire. Dans mon précédent album, qui s'appelait Pourquoi j'ai tué Pierre, avec Alfred, c'est Henri Meunier, qui est par ailleurs auteur pour la jeunesse, qui avait fait les couleurs, et quand on voit le travail qu'il a fait, ce qu'il a amené dans la couleur, on comprend à quel point c'est vraiment indispensable.
Un mot sur la couverture. Parce qu'on sait à quel point des fois c'est difficile d'obtenir une couverture qui plaît. La vôtre, ça s'est passé comment?
Ben là encore une fois, c'est vraiment le travail de Domitille. C'est elle qui a fait des propositions auprès de Delcourt. Ils se sont mis d'accord entre eux. Moi, elle m'a mis au courant en m'envoyant quelques rushs, quelques propositions, mais ça s'est très très vite décidé. C'est pas toujours le cas. C'est vrai que très souvent, il y a de longues recherches, de longues discussions, des fois c'est des bras de fer même, pour réussir à se mettre d'accord sur le visuel de la couve, mais là, ça a été assez rapide. C'était dans la logique de notre envie de départ, hein. C'était la couverture, pour ceux qui l'ont pas vu, c'est vraiment la façade de l'immeuble, dans lequel se trouve le magasin des suicides. Donc voilà, c'était vraiment, on a la façade de l'immeuble en couverture, on ouvre l'album, on rentre dans le magasin. C'était ça l'idée. Donc ce visuel-là s'est imposé assez rapidement en fait.
Est-ce que vous avez éventuellement réfléchi à une bande-son à écouter en même temps que le magasin des suicides? Parce qu'il y a le film qui est sorti depuis, donc il y a une bande-son qui existe, mais pour votre bande dessinée?
Non, pas du tout. Moi je travaille absolument dans le silence. Ça c'est une dimension qui me manque. C'est vrai qu'il y a pas mal d'auteurs qui travaillent en musique pour nourrir leurs émotions. Moi je travaille dans le silence. Si musique il y a, c'est vraiment dans ma tête et je serais bien incapable de dire même quel genre de musique m'accompagne à ce moment-là. J'ai besoin pour me concentrer et être pour révéler complètement tout ce que j'ai envie d'écrire. Il faut que je sois absolument pas parasité par quoi que ce soit. Donc ni musique, ni monde autour de moi. Voilà, je suis quelqu'un qui vit plutôt à la campagne, dans le silence absolu. C'est un peu moine comme manière de vivre, mais c'est ce qui me permet vraiment de plonger au cœur des histoires, parce que sinon ça me perturbe. Mais si j'avais une musique à apporter, ça serait quand même une musique à la Badalamenti, vous savez, la musique de Twin Peaks, ce genre de choses. Quelque chose à la fois aérien, avec une part très sombre. Je pense que ce serait un mélange assez intéressant pour cette histoire.
Est-ce que vous avez eu un retour de Jean Telet sur votre BD? Est-ce qu'il l'a lu? Est-ce que vous savez?
Oui, il l'a lu. Alors, le fait est que Jean Telet, on se connaît depuis très longtemps. On n'est pas proche, mais c'est un très bon ami. C'était un très bon ami à mes parents. Donc, il se fréquentait beaucoup quand j'étais môme, et il m'a connu tout petit. Il venait à la maison faire des fêtes régulièrement, donc je le voyais dans des états pas possibles. j'ai quelques souvenirs dans mon dossier que je garde dans mon coffre-fort. Donc, c'est quelqu'un avec qui, voilà, il a toujours su qui je suis, etc. Le lien était là. Et en fait, on s'est contacté avant, donc voilà, pour lui faire part du projet. Il était ravi que ça se fasse comme ça. Et il n'est pas du tout intervenu durant toute la réalisation. Il a ni donné son avis, ni quoi que ce soit. Il nous a vraiment laissé en paix. Et il m'a appelé le jour de la sortie de l'album, dès qu'il l'a lu, il m'a appelé. C'était très très gentil de sa part. Il m'a appelé, il était ravi, vraiment, très 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 honnêtement. C'est quelqu'un qui a cette courtoisie d'appeler les gens et de leur dire ce qu'ils pensent. Et c'est rare, et c'est vraiment, vraiment très chouette de sa part. Et il m'a dit quelque chose qui m'a fait plaisir. Il m'a dit « Enfin, quelqu'un a gardé ma faim ». Parce que toutes les adaptations qu'il y a eu de ce roman, il y en a eu plusieurs. Hein. Bon, il y a eu le film de Patrice Lecomte, mais avant ça, il y a eu plusieurs adaptations au théâtre, y compris en comédie musicale, que j'ai pas vu, mais qui doit être assez intéressant. Et systématiquement, on lui a changé sa faim. Je ne dévoilerai pas la fin de l'histoire, mais celle qui se trouve dans la bande dessinée est la même que celle du roman. Et à chaque fois, il était déçu parce qu'on avait changé sa fin, on l'avait plutôt dirigé vers une happy end qu'il n'avait pas choisi lui au départ, donc il était à chaque fois un poil déçu, et là il était ravi que quelqu'un ait gardé enfin sa fin. Voilà. Donc je tiens à le dire, c'est la vraie fin du vrai livre dans la bande dessinée.
Vous travaillez sur quoi actuellement ?
Alors actuellement, je travaille sur un scénario pour une jeune dessinatrice, alors on est vraiment au tout début du projet, mais une jeune dessinatrice qui n'a pas encore fait de bande dessinée, mais qui a un talent fou et que j'ai absolument envie d'amener avec moi chez les éditeurs. Elle s'appelle Marion Duclos, c'est un nom à retenir parce qu'elle va très très bientôt montrer de quoi elle est capable. Et je travaille à la fois sur un roman pour Plomb, parce que j'écris des romans pour, en fait, des romans généraliste, pour adultes, mais qui parle de l'adolescence. C'est mon travail chez Plomb. Là, je suis en train de réécrire un roman que j'ai un tout petit peu raté, donc je suis en train d'essayer de le réussir. Et je travaille sur un nouveau spectacle pour la jeunesse. Notamment un spectacle, enfin deux spectacles, mais il y en a un qui est en train de se monter avec Alfred, mon vieux pote Alfred, avec qui on a fait Pourquoi j'ai tué Pierre, qui sera un spectacle musical pour les tout-petits, très très déconnant, très amusant et voilà, qui s'adresse aux enfants à partir de 5-6 ans.
Si on vous permettait d'adopter en animal de compagnie une des quatre créatures que je vais vous proposer, laquelle vous prenez ? Vous avez le choix entre l'alien de Ridley Scott, le Gremlins, la chenille de Alice au pays des merveilles ou un phénix. Vous prenez quoi en animal de compagnie ?
Moi j'ai toujours été celui qui se faisait casser la gueule dans les cours de récréation. Je prendrais l'alien. Animal de compagnie, donc, qui m'aime bien, on va dire. Hein. Ouais, Alien, pour en montrer un peu, la revanche. Et je désignerai quelques personnes à aller voir, de ma part.
Ok, merci.
Avec plaisir.